voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Pierre Fimon, diplomate français.
Quatrième épisode, le diplomate et le politique. Bonsoir Pierre Fimon.
Bonsoir.
Nous nous sommes quittés hier après que vous nous avez raconté quelques-unes des missions compliquées que vous avez eu à gérer. Pour cette quatrième émission avec vous, j'aimerais aujourd'hui que nous nous penchions sur les rapports que vous avez entretenus en tant que diplomate pendant près de 40 ans, même peut-être un peu plus, avec le politique, le monde politique et les responsables politiques. Pour commencer, est-ce que le métier de diplomate que vous nous avez raconté et expliqué au cours de ces entretiens, est-ce que ce métier est fondamentalement un métier politique, c'est-à-dire un métier où on exerce la politique ?
Je ne suis pas sûr que ce soit un métier où on exerce la politique, mais c'est un métier où il faut avoir du sens politique, du flair politique. Ça me paraît tout à fait important. Et je l'ai souvent entendu dire de la part des ministres pour lesquels j'ai travaillé, et je trouvais qu'ils avaient tout à fait raison. L'administration manque souvent de flair politique. Hein. On dit souvent des fonctionnaires qui sont très bureaucrates et qui n'ont pas toujours cette perception des réalités politiques autour d'eux. Et je parle de politique au sens général. Comment réagissent les opinions publiques, quels sont les rapports de force sur la scène internationale, etc. Je ne parle pas des petits calculs politiques ou politiciens, comme on dirait. Mais la politique au sens le plus large, oui, c'est un métier où il faut être politique. Si vous êtes en poste au Brésil ou en Grande-Bretagne, où actuellement la vie politique intérieure pose pas mal de problèmes, un ambassadeur, il doit être capable d'expliquer ce qui est en train de se passer. Il doit être capable éventuellement aussi de prendre son courage à deux mains et de faire des prévisions. C'est ça qui est utile pour le pouvoir politique en France.
Et quand on est un diplomate qui est en poste au Quai d'Orsay, qui par exemple est directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, ce que vous avez été à trois reprises, Pierre Fimon, que de quelle nature sont les relations entre le diplomate à ce moment-là et le ministre ? Comment les caractériser ?
Pour moi, c'est très simple. C'est vous êtes au service de votre ministre. Vous pouvez lui donner des conseils. Vous pouvez même faire part de vos interrogations ou de vos objections. Mais à la fin, c'est le ministre qui décide.
Mais c'est comme un conseiller ?
Oui, à certains égards, ça peut être un conseiller, mais l'un parmi d'autres, même si vous êtes le directeur de cabinet, mais il y a aussi d'autres conseillers qui ont aussi leur mot à dire, et tout ça est un travail collectif, c'est normal et c'est très bien ainsi. Mais ce que je veux dire, c'est que on a eu parfois tendance à dire que les directeurs de cabinet, ce sont des ministres bis, et ça m'a toujours dérangé, personnellement. Comme je suis resté 5 ans directeur de cabinet, la tendance dans la maison était de dire le vrai ministre, c'est lui, c'est Pierre Fimon. Or ça, je n'ai jamais cru à cela. Il me semble que on est là pour servir son ministre, et ce n'est pas de la langue de bois. Je veux dire par là même que un directeur de cabinet ou tout fonctionnaire, tout conseiller qui finit par penser qu'il est lui le politique qui prend les décisions, c'est très dangereux à mon avis.
Alors vous dites que vous êtes resté 5 ans, de fait de 2002 à 2007, vous étiez le directeur de cabinet de 3 ministres des Affaires étrangères successifs, Dominique de Villepin de 2002 à 2004, Michel Barnier de 2004 à 2005, puis Philippe Douste-Blazy de 2005 à 2007. Dans ce ministère des Affaires étrangères, au Quai d'Orsay, où nous sommes aujourd'hui pour enregistrer ces entretiens, Pierre Fimon. Le Quai d'Orsay, c'est votre deuxième maison ?
Oui, le fait que je vous reçoive ici me semble particulièrement révélateur, n'est-ce pas ? Oui, c'est un peu ma deuxième maison, et c'est vrai que pendant les années où j'étais affecté ici au ministère, j'y passais beaucoup de temps. probablement trop de temps. D'ailleurs, il faut savoir s'aérer et prendre un peu de recul. Et ma seule aération, notamment quand j'étais directeur de cabinet, c'était de me promener dans le jardin qui est derrière l'hôtel du ministre et que vous voyez là par la fenêtre. C'était l'essentiel de mes moments de détente. Donc c'est vrai que c'est un peu ma deuxième maison.
Grande maison, hein. Alors on le voit, le citoyen français n'a pas beaucoup l'occasion d'entrer dans ce lieu sous les ordres de la République, à part peut-être pour les journées du patrimoine. On le voit représenté dans une bande dessinée qui a ensuite été adaptée à l'écran par Bertrand Tavernier, bande dessinée de Christophe Blain et Abel Lanza qui s'intitule Quai d'Orsay. Et on voit dans cette bande dessinée puis dans le film très longs couloirs, des très grandes salles, des petites aussi, puisqu'il y a aussi comme des boudoirs. Est-ce que vous nous feriez une petite présentation des lieux? Je sais pas, on va pas faire une visite guidée, hein, on reste assis. Mais des endroits où vous, votre bureau, par exemple, ouais. À quoi ressemblait-il?
Ouais. Mon bureau se situait, quand j'étais directeur de cabinet, juste en dessous de la pièce où nous nous trouvons. Et c'est un petit bureau, c'est pas un grand bureau. On pourrait imaginer que le directeur de cabinet a un immense bureau. Mais en fait, vous savez, c'était un hôtel particulier. Donc le ministre, lui, a un bureau relativement spacieux, son secrétariat aussi. Mais autour de lui, tous ses collaborateurs qui travaillent notamment au cabinet sont assez à l'étroit, assez serrés dans des petites pièces. Mais pour par souci de rester à proximité du ministre et de pouvoir être appelé à tout moment, parce que dans ce ministère qui est en effet assez vaste, hein, avec de longs couloirs qui vont jusqu'au bout, là près de la rue qui est plus bas, si à chaque fois que le ministre a besoin de vous, il faut emprunter ces couloirs, vous mettez au moins 5 à 10 minutes avant d'arriver chez le ministre. Or là, et c'était ce que montrait assez bien la bande dessinée, quand le ministre souhaite la présence d'un conseiller, il le veut tout de suite. Et donc, voilà, c'était ça. Pour le reste, il y a une autre partie du ministère qui est située rue de la Convention. Ce sont plutôt justement des services qui n'ont pas besoin d'être en contact immédiat avec le ministre. Mais enfin, quand ils sont appelés pour des réunions, il faut qu'ils viennent ici. Et puis, il y a aussi ce que je regrette parfois, c'est qu'on ne montre pas assez aussi notre remarquable réseau d'ambassades à travers le monde, parce que ça aussi, c'est une réalité française. Nous avons souvent de belles ambassades à l'étranger, souvent prestigieuses, le Palais Farnèse à Rome par exemple, notre ambassade à Vienne ou à Lisbonne et à Prague aussi. Et ce sont également des symboles utiles pour faire comprendre aux populations locales ce qu'est la France et ce qu'elle représente.
Je citais cette bande dessinée puis le film Quai d'Orsay dans ces deux œuvres, hein, puisque l'une est adaptée de l'autre. On voit évidemment le personnage de Dominique de Villepin, mais on voit un deuxième personnage qui est très important. Je ne dis pas que c'est un ministre bis, mais enfin c'est en tous les cas un deuxième personnage central, qui est le personnage de Claude Maupas dans la bande dessinée et dans le film. Et qui vous représente. Dans le film, c'est Nils Arestrup qui joue votre rôle. Ça vous fait quoi, déjà, de vous voir mise en scène de cette façon-là, vous qui êtes plutôt, qui revendiquez, en tous les cas, la plupart du temps, de rester dans l'ombre?
C'est en effet un peu curieux, une impression un peu curieuse. J'ai un ami qui m'avait dit, après avoir lu la bande dessinée, maintenant où tu es tranquille, les héros de bande dessinée sont immortels. Et finalement, je crois que c'est peut-être la seule chose qu'on retiendra de ma carrière. Et je trouve que c'est assez bien. Il y a quelque chose d'assez ironique et finalement c'est pas mal. Mais j'ai trouvé ce qui m'a impressionné chez tous ceux qui ont joué, Nils Arestrup, Thierry Lhermitte et d'autres encore. Moi, je n'ai eu aucun contact pendant tout le tournage de ce film et après. Et je trouve que c'est impressionnant de voir comment un acteur arrive à prendre un rôle et à s'investir dans ce personnage. personnage et à lui donner une couleur qui lui est propre, mais qui en même temps est, je trouve, fidèle à notre vie quotidienne. Je trouve que je suis toujours fasciné par ce métier d'acteur.
Est-ce que c'est vrai, Pierre Vimont, que vous avez gardé le chat, le mobilier et les chaussures de gym de votre prédécesseur, la bande dessinée?
Oui, donc ça, ce n'est pas faux. Il y avait un chat, mais je n'avais rien
c'est
à voir.
C'est pas vrai ou c'est...
Non, je n'avais pas de chaussures de tennis. Le mobilier, oui, le mobilier, je n'ai rien changé. Le chat, il était là, en effet, mais c'était le chat, en réalité, qui avait été une sorte de chat errant, qui avait été pris en charge par les jeunes femmes qui travaillaient au bureau d'ordre du cabinet. Et donc, c'est un chat qui se promenait la journée et la nuit aussi. Et donc, comme j'étais à un moment donné dans la nuit le seul qui était là, il venait parfois, notamment l'hiver, frapper à ma fenêtre pour que je lui ouvre et que je le laisse entrer dans ses pièces un peu chauffées.
Et il vous tenait compagnie.
Il tenait compagnie.
Pour ces longues nuits. Bon, plus sérieusement, on vous voit au travail, on vous voit organiser des réunions, les fameuses réunions de calendrier, par exemple, notamment, mais bien d'autres encore. On vous voit répartir les dossiers par secteur géographique ou dossier sensible. On vous voit faire le tampon entre les membres du cabinet, des conseillers justement par secteur, et puis le ministre, savoir gérer le moyen terme, le court terme, le long terme, et surtout garder son calme en toutes circonstances, voilà peut-être les deux clés de ce poste de directeur de cabinet.
Oui, et je pense aussi mon prédécesseur qui avait également occupé ce poste pendant 5 ans, mais lui avec un seul ministre, qui était Hubert Védrine, partageait avec moi cette idée qu'au fond, l'aspect le plus important de ce métier de directeur de cabinet, c'est d'être là. D'être là à son bureau, peut-être pas 24 heures sur 24, mais le plus souvent possible. Parce que même tard dans la nuit, je recevais des coups de téléphone d'ambassadeurs un peu désespérés, à la recherche d'instructions et ne trouvant personne, et ayant le sentiment que les correspondances qu'ils envoyaient à Paris pour demander des instructions ne recevaient aucune réponse. Et donc, j'étais celui qui était la roue de secours, en quelque sorte. Et je trouve que ça, c'était finalement notre rôle le plus utile.
De fait, vous avez eu à gérer une voiture qui, non pas cabossée, mais en tous les cas, qui a eu quelques accidents de parcours, puisque le mandat de Dominique de Villepin, dans ces années-là, a été émaillé de crises, dont certaines graves, notamment en Côte d'Ivoire, où a éclaté une crise politico-militaire en septembre 2002, quand des rebelles ont tenté de prendre le contrôle de plusieurs villes. Et puis on se souvient bien entendu peut-être encore plus du mandat marqué par l'intervention américaine en Irak. Et ce qui a marqué les esprits, Pierre Vimont, c'est le discours de Dominique de Villepin devant le Conseil de sécurité des Nations Unies le 14 février 2003, un discours dans lequel il a exprimé l'opposition de la France face à une intervention militaire alliée. C'est un discours lyrique dont on retient essentiellement la conclusion, je ne vais pas le relire ici. Est-ce que vous vous souvenez des débats que vous avez eus au sein du cabinet? Est-ce qu'il y a eu d'ailleurs des débats au sein du cabinet, avant le discours, non pas sur le discours, mais sur la position même de Dominique de Villepin, qui s'est montré toujours très méfiant à l'égard de l'OTAN, à l'égard des États-Unis. Est-ce que c'était une position partagée au sein du cabinet ?
Sur le discours lui-même, non, il n'y a pas eu de débat, parce que ce qui a été peut-être un peu oublié, c'est que les mois de janvier et de février 2003, qui ont été des mois où on a vu monter en puissance la préparation militaire des États-Unis et qu'on sentait bien qu'ils étaient décidés à intervenir en Irak, ce sont des mois où, à ce moment-là, l'activité au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies a été intense. Il y avait pratiquement une réunion au niveau ministériel tous les 15 jours. C'est-à-dire que Dominique de Villepin est au moins allé 2 ou 3 fois à New York avant de prononcer son discours. Et donc, chaque fois, il fallait lui faire un discours. Et donc, quand on est arrivé à la 3e ou 4e session ministérielle du Conseil de sécurité, où on nous a dit, il faut encore faire un discours, il n'y avait pas un très grand enthousiasme. Il y avait, je dirais, une certaine fatigue. Et donc, ça a été fait assez rapidement. Et puis on l'a retouché dans la nuit qui précédait. Ça a été fait très très vite.
Et de comme... façon collective, d'après
oui,
ce que j'entends.
De façon tout à fait collective. Et je me souviens très bien de Dominique de Villepin arrivant dans mon bureau, regardant l'ébauche qui devait déjà être la cinquième ou sixième ébauche du discours, et nous disant ça manque de souffle, les gars. Il faut mettre un peu plus de souffle. Parlez-moi de la France, ce vieux pays, par exemple. Et on s'est dit tiens, la formule n'est pas mal, et on l'a reprise, et c'est avec ce discours-là qu'il est parti à New York dans l'avion, où ceux qui l'accompagnaient ont encore ajouté des éléments. Dominique de Villepin lui-même, j'étais en contact téléphonique avec lui.
Vous n'étiez pas du voyage?
J'étais pas du voyage, j'étais resté sur place. Il voulait aussi, il était très attentif à être sûr que le président de la République était d'accord avec ce discours. J'ai pu lui donner le feu vert du président qui m'avait été transmis entre-temps. Donc voilà, le discours, ça a été un travail collectif, et je dirais le retentissement qu'il a eu ensuite, les applaudissements dans la salle.
Ce qui ne se fait pas.
Les coups de téléphone de citoyens ordinaires qui appelaient le Quai d'Orsay, le standard du Quai d'Orsay, pour dire nous sommes fiers d'être français, c'est un magnifique discours. Tout ça nous a pris de court, on ne s'attendait pas du tout à une réaction de ce type. Donc, je dirais, cette partie-là du discours, c'était travail presque de routine, en réalité. Sur la position de Dominique de Villepin lui-même, oui, il y a eu débat au sein du ministère. Il y avait toute une partie de diplomates qui pensaient que s'opposer de manière aussi nette aux États-Unis était risqué, inutile, allait provoquer pour de longs mois de profondes divergences et peut-être même une situation assez difficile aux États-Unis pour nos diplomates, et ça a été le cas d'ailleurs, les Américains nous en ont beaucoup voulu.
Oui, ça a ouvert une crise sans précédent entre les États-Unis et la France. Exactement. Un anti-américanisme d'un côté, le sentiment anti-français aux États-Unis de l'autre.
Exactement, vous avez raison. Mais en même temps, c'était, j'allais dire, presque plus que des principes que nous défendions. C'était une vision de la situation politique au Moyen-Orient qui était la nôtre, et où nous pensions que vraiment l'intervention américaine allait provoquer une catastrophe dans la région.
Donc vous étiez plutôt sur la position du ministre.
Oui, parce que j'ai toujours pensé que l'analyse que faisait Dominique de Villepin, et que faisait Jacques Chirac aussi, qui était qu'en intervenant en Irak et en créant probablement une profonde instabilité dans le pays, on donnait une carte majeur à l'Iran à côté. N'oubliez jamais que l'Irak a une majorité de sa population chiite, et que donc nous allions nous retrouver avec un régime chiite en Irak, ce qui a été le cas, et que bien évidemment l'Iran allait tirer parti de cette situation. Et on a bien vu d'ailleurs, maintenant tout le monde le reconnaît avec le recul du temps, que cette aventure militaire en Irak pour les États-Unis était sans doute une grande erreur. Donc c'était là où nous, cette position-là que nous défendions. Et encore une fois, dans ce ministère, un certain nombre de diplomates disaient « vous avez raison sur le fond, je crois que l'analyse géopolitique était partagée par tous, néanmoins, ne nous mettons pas les Américains à dos ». Voilà, c'était ça la différence.
Et c'est vous qui vous êtes retrouvé 4 ans plus tard, en 2007, ambassadeur à Washington, aux États-Unis. C'est l'un des postes les plus prestigieux de la diplomatie française. Intéressant sans doute, puisque vous y êtes resté 3 ans, de 2007 à 2010, à un moment de changement de présidence américaine, le passage entre George W. Bush et Barack Obama. De quoi vous souvenez-vous comme moment saillant de ces 3 ans?
L'élection d'Obama, bien sûr, qui était quelque chose d'assez remarquable, et la campagne électorale avant. J'ai eu l'occasion, et c'était normal, c'est le rôle d'un ambassadeur ou même tout simplement d'un diplomate français, d'aller sur les routes américaines, suivre les différents candidats et voir en profondeur ce que représente la démocratie américaine. Et je dois dire que j'étais très très impressionné, notamment dans sur la côte est des États-Unis, dans la Nouvelle-Angleterre, dans le Massachusetts ou dans le New Hampshire, où les candidats viennent parler aux électeurs dans des petites salles, on appelle ça les townhouses, là où se tiennent les réunions municipales en général, et vous avez les électeurs potentiels qui viennent poser toutes les questions qu'ils veulent aux candidats. Et interrogeant certains de ces Américains ou Américaines à la sortie, je leur disais satisfait ou pas satisfait, ils me disaient oui ou pas entièrement, je reviendrai la semaine prochaine pour poser à nouveau d'autres questions. Donc une espèce de démocratie directe très, très intéressante. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est bien évidemment l'élection d'Obama, un coup de tonnerre aux États-Unis, un Afro-Américain élu président. Et je me souviens de beaucoup d'observateurs américains qui avaient d'ailleurs voté pour Obama, qui m'ont dit il y aura un retour de manivelle, il y aura un backlash, parce qu'il y a beaucoup d'Américains conservateurs qui vont ressentir ça très, très sévèrement, très, très durement, et qui auront du mal à l'accepter. Donc il se passera quelque chose dans ce pays après Obama. Et ça a été Trump. À l'époque, personne ne l'imaginait, mais c'était intéressant d'observer cela. Et je note d'ailleurs que dans ses mémoires, Barack Obama lui-même reconnaît que durant toute sa présidence, il y avait ce mouvement populiste, conservateur, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais qui a pris de plus en plus d'importance.
Pierre Vimont, à ce moment-là, en France, c'est Nicolas Sarkozy, le président de la République. Est-ce que l'ambassadeur à Washington est un fidèle exécutant de la volonté du chef de l'État? Il est au service du chef de l'État. Et est-ce que vous vous êtes retrouvé parfois en désaccord avec certains choix ou certaines décisions que vous imposait le président de la République?
Je n'ai pas de souvenir de ça, mais de manière générale, oui, on est le serviteur du président, et si on n'est pas d'accord, on demande à changer de poste ou on part. Hein,
on ne le dit pas. Si on le dit, ça veut dire qu'on en prend les conséquences.
Non, bien sûr, on peut le dire. Il faut le dire dans la correspondance qu'on envoie lorsqu'on vient à Paris et qu'on peut rencontrer le ministre ou les gens de ce ministère. Il faut le dire. Je crois que c'est très important, et ne serait-ce que pour mettre en garde et pour prévenir qu'on est peut-être en train de faire une erreur. Mais ce que je veux dire, c'est que si à la fin ces observations, ces remarques ne sont pas prises en compte et qu'on trouve que c'est impossible de continuer à exercer sa fonction, alors il faut partir. Moi, je garde le souvenir dans, je crois, notre première émission, je soulignais que les diplomates dans la génération de mon père étaient des gens qui avaient une haute stature morale. Moi, je me souviens quand même qu'en 1981, avec l'arrivée des socialistes et de François Mitterrand, vous avez deux ou trois ambassadeurs qui ont démissionné en disant qu'ils ne voulaient pas servir un gouvernement socialiste. Alors, on peut être pour ou contre, mais au moins, ils étaient en phase avec leurs convictions, si vous voulez. Et je trouve que ça, c'est important.
Et pourtant, j'ai cru comprendre, déjà au fil de ces entretiens avec vous, Pierre Vimont, qu'un diplomate doit mettre de côté ses convictions idéologiques, qu'il faut savoir défendre une certaine neutralité, ne pas prendre position. Et ça, c'est vrai aussi bien au sein d'un cabinet, quand vous êtes le directeur de cabinet, qu'évidemment dans les relations internationales, au risque peut-être parfois de ménager un peu trop la chèvre et le chou et de pas faire avancer les dossiers, je ne sais pas. Mais donc cette neutralité, elle est importante dans votre métier.
Je pense qu'il faut faire une distinction entre neutralité politique, qui est importante. On doit pouvoir servir tous les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique. Et je dirais, dans le cadre du métier que vous exercez, vos convictions sur les choix qui sont faits, et qui pour moi ne sont pas d'ordre idéologique, mais d'ordre de politique étrangère ou diplomatique. Et qu'il faut pouvoir dire que vous n'êtes pas éventuellement d'accord, que vous pensez que c'est une erreur. À partir de là, soit vous restez en place parce que vous estimez que ces divergences n'atteignent pas un tel niveau que ça devient insupportable pour vous, mais je crois qu'il faut le dire, oui, il faut le dire discrètement, dans le cadre de la confidentialité des échanges, mais que vous devez pouvoir dire à votre ministre, je pense que vous faites une erreur. Ça, je crois que vous devez pouvoir le dire. Et si le ministre vous dit, désolé, mais je vais de l'avant, eh bien, il faut l'accepter. Si vous estimez ça, encore une fois, insupportable, alors à ce moment-là, vous devez demander à partir. Mais je crois que le rôle d'un diplomate, c'est de dire, encore une fois, dans le cadre des activités et de l'action diplomatique, ce que vous pensez être la bonne approche. Cela dit, vous n'avez pas toujours raison. Hein. Vous pouvez vous-même vous tromper. Moi, je me suis souvent trompé. J'ai eu l'occasion de dire à mes directeurs, parfois au ministre, que je pensais que c'était une erreur. Et c'était moi qui étais dans l'erreur. Et donc, voilà.
Une erreur qui a pu avoir des conséquences lourdes?
Non, c'est des petits, des petits détails. Non.
Est-ce à dire, Pierre Vimont, que selon vous, il n'existe pas de politique étrangère de gauche ou de droite? Une extraordinaire stabilité de la politique étrangère depuis, de la France depuis 1958, quelle que soit l'alternance.
Je suis quand même frappé qu'en effet, depuis le début de la Ve République, il y a une réelle continuité dans la politique étrangère. Vous savez, il y a eu récemment un grand débat entre spécialistes, entre ceux qui prétendaient qu'il y avait, enfin ceux qui disaient qu'il y avait une approche gaulo-mitterrandienne de la politique étrangère et que depuis Nicolas Sarkozy, il y avait une évolution, une tendance à être beaucoup plus proche de la ligne américaine, par exemple, en tenant compte notamment de la très forte opposition que nous avions eue pendant la guerre d'Irak. Et ceux qui défendent cette thèse mettent en avant le fait que Nicolas Sarkozy a fait revenir la France au sein de l'OTAN. J'ai toujours pensé qu'au fond, si vous prenez un peu plus de recul et que vous regardez depuis 1958, il n'y a pas tant de différence que cela. Et ce, moi, c'est peut-être à cause de mon séjour, mes longs séjours à Bruxelles, mais je peux vous dire que nos partenaires européens et d'autres encore trouvent qu'il y a une continuité dans l'attitude française en matière de politique étrangère qui n'a pas fondamentalement changé. Et quand en particulier ceux qui critiquent un certain gouvernement français pour être trop proche des États-Unis, aller dire ça à nos amis européens, ça les fait sourire parce qu'ils trouvent qu'il y a une espèce de permanence française dans une attitude, je crois qu'Hubert Védrine a qualifié d'allié mais non aligné sur les États-Unis. Beaucoup de nos partenaires continuent à penser que nous continuons à défendre un non-alignement systématique sur les États-Unis très très fort. Et on le voit encore aujourd'hui lorsque nous parlons de la Chine, de la France sur l'Indo-Pacifique. La France est toujours soucieuse de rappeler que dans l'Indo-Pacifique, elle a sa propre approche qui n'est pas exactement celle des États-Unis et nous tenons à ce que cette identité française soit bien rappelée en permanence.
Puisque vous avez commencé à prendre du recul sur le temps long et de la hauteur, je vous invite, Pierre Vimont, à nous retrouver demain pour la dernière émission avec vous, puisque nous allons parler de ce nouveau monde. En tous les cas, on est entre deux, peut-être. Ce sera la première question que je vous poserai. Sommes-nous à la fin d'une époque, au début d'une autre, ou entre les deux? Nous prendrons un peu de hauteur sur les 50, 70 dernières années pour aller voir demain ce qu'il en sera. Merci. Et bonne soirée.
Bonne soirée.
C'était À Voix Nue avec le diplomate Pierre Vimont, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Loïc Duros, réalisation Guillaume Baldi. Une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.